Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Comme chaque mardi depuis maintenant pas mal de temps, je suis en compagnie de Charles Gave. Bonjour Charles.
Toujours là.
Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet pas forcément très passionnant, parce que le personnage en lui-même, suscite un certain rejet chez beaucoup de gens, moi y compris, vous y compris, j'imagine. On va parler en premier lieu d'Olivier Véran.
On est forcé ?
Oui.
Bon, d'accord.
Oui, c'est obligatoire.
D'accord, on va parler d'Olivier Véran.
Non, mais figurez-vous, c'est vous qui m'aviez donné l'idée, parce que ça fait longtemps que vous avez envie de faire un peu... Là, on reprend les phrases
c'est une idée que j'ai eue il y a longtemps. C'est dans le fond d'essayer de faire la grande idée de l'an dernier. Vous savez, le type qui vous annonce quelque chose, le style Attali, Mac ou n'importe quoi, qui vous annonce quelque chose de tout à fait évident qui va se passer dans les 12 mois qui viennent, et il se passe exactement le contraire, il a l'air complètement idiot. Et donc, je pensais qu'on devrait faire une émission comme ça sur chacun des luminaires qui nous instruisent ou qui nous gouvernent, vous savez. Et vous avez décidé de commencer par Olivier Véran.
Oui, parce que je pense que c'est peut-être le pire.
Oui, mais vous tapez facile, là. Vous allez pas vers les sources difficiles, là.
Non, c'est vrai. Mais cela dit, si on a un peu de temps, j'imagine qu'on en aura, on peut aller sur Jacques Attali, parce que Jacques Attali écrit des articles.
Il écrit beaucoup. Et comme dit ma chère fille, il dit pas que des bêtises. Il en écrit beaucoup aussi.
Ah oui, je confirme. Et dans ses articles, alors, il fait de la prospective. Donc, il essaye de dire, voilà ce que je pense qui va se passer telle ou telle année. Donc, par exemple, j'ai repris deux de ses articles récents. Un qui fait de la prospective pour l'année 2024, l'autre pour l'année 2023. Et alors, faut dire quand même, enfin, on va en reparler un petit peu plus tard, je pense, dans une demi-heure, que ces prédictions, à chaque fois, il se mouille pas trop quand même, parce qu'il dit peut-être qu'il va se passer ça, mais peut-être qu'il va se passer l'exact inverse. Je sais pas, on verra. Alors,
j'aime beaucoup tous ces gars-là, c'est toujours envie de leur dire, vachement intéressant ce que vous racontez, mais est-ce que je pourrais voir votre portefeuille ? Parce que ce que je veux dire par là, c'est quand on est dans les marchés financiers, on ne peut pas dire ça va monter, mais ça va peut-être baisser. Vous comprenez ?
Ouais.
Il faut avoir un portefeuille qui tienne à peu près la route dans tous les cas de figure. Et c'est pour ça que j'ai toujours été absolument fasciné par des gens qui font des prédictions. Si vous y croyez, les enfants, si vous pensez que vos prévisions sont de qualité, que ne jouez-vous les marchés financiers ? Parce que il y a toujours une façon objective de jouer sa prévision.
Mmh, tout à fait.
Dans les marchés, ils viennent me voir et me disent comment je peux jouer, le fait que l'inflation s'écroule ou qu'elle passe à travers du toit. Je leur dis ce qu'il faut faire dans les marchés instantanément. Et s'ils le savent pas, c'est des gros crétins à leur âge. Mais dire que peut-être bien que oui, peut-être bien que non, et c'est comme dans la générale, si vous voulez, quand on est en train de se faire enfoncer. Il dit, à un moment, il faut qu'il fasse quelque chose. Je sonne la retraite ou je contre-attaque, quoi. Mais vous pouvez pas dire...
Peut-être que ça va bien se passer, peut-être que non.
Peut-être que je suis pas vraiment en train de me faire enfoncer ou peut-être que je vais pas finalement... C'est terrible, mais ça paraît idiot ce que je vais dire, mais... Que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Mais tout le reste vient du malin, disait le Christ.
Oui, oui.
Donc tous ces gens-là, ils font partie de ce que j'appelle l'empire du mensonge.
Ouais, effectivement. Et ben justement, on s'attaque un peu à cet empire du mensonge. Donc le premier personnage de cet empire, c'est Olivier Véran. Alors Olivier Véran...
Et docteur, non ?
Alors oui, il a été médecin, effectivement. Alors il n'exerce plus, hein. Il a été ministre de la Santé.
Il avait tué tous ses patients, vous croyez ?
Peut-être pas quand même. Enfin,
je sais pas.
Je sais pas, mais il a été, on s'en souvient très bien, ministre de la Santé. Plus récemment, il a été porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, il n'occupe plus de poste parce qu'il semblerait qu'il est en couple avec Gabriel Attal, donc notre premier ministre.
Arzeau.
Oui, Arzo, oui.
Ah, d'accord, c'est pour ça qu'il n'a plus rien.
Oui, c'est pour ça qu'il n'a plus rien.
D'accord, c'est compliqué ces jours-là.
Et oui, tout à fait. Et donc, quel que soit son poste, il avait quand même l'habitude de venir sur des plateaux ou en conférence de presse pour démentir des rumeurs qui couraient souvent sur des actions potentielles du gouvernement. Et à chaque fois, il dit non, vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas. Et puis, quelques jours après, on a un autre gars qui vient pour nous dire si, vous inquiétez pas, ça va se passer et c'est une très bonne chose. Donc par exemple le 7 décembre 2022, il disait en conférence de presse Nous ne sommes pas en train d'annoncer qu'il y aura des coupures d'électricité cet hiver. Vous vous souvenez, c'était l'hiver dernier. Il y avait ces rumeurs sur voilà.
Il n'y avait pas assez de production
d'électricité puisqu'il y avait plein de centrales qui n'étaient pas.
Nous ne sommes pas en train d'annoncer qu'il va y avoir des coupures de courant.
Oui.
Mais quelle est la phrase après ? Parce que qu'est-ce qu'il était en train d'annoncer alors ?
Oh bah, il était en train d'annoncer qu'il n'y aurait pas de coupure. C'est tout. c'est tout.
Il n'y avait pas un mais. Juste qu'il n'y aurait pas de coupure.
Non, juste qu'il n'y aura pas de coupure. Sachant que quand même, deux jours plus tard, Olivia Grégoire, qui était à l'époque ministre du Commerce, disait « C'est possible, je cite ses propos, c'est possible qu'il y ait des coupures d'électricité qui concernent quelques millions de Français par jour, qui seraient prévues à la veille à 17h à condition de télécharger EcoWatt. » Donc c'est-à-dire que Olivier Véran nous dit « Vous inquiétez pas, il n'y aura pas de coupure », mais deux jours plus tard, on nous dit qu'il y a littéralement une application qui permet de savoir à l'avance s'il y aura des coupures ou pas. C'est quand même formidable, je trouve.
Et ce qui est rigolo, c'est que je suis pas ingénieur, mais les coupures d'électricité, ça se passe qu'en un seul coup, il faut couper parce que sans ça, tout le système saute. Donc ouais. On fait sauter une partie du système et c'est... Moi, je me trompe, mais c'est complètement imprévisible parce qu'on ne sait jamais l'endroit qui est sous tension. Donc avoir une application qui vous prévient des heures à l'avance que ça va sauter par hasard à cet endroit-là me paraît en soi une imbécilité.
Il me semble que on avait déjà commenté ces trucs-là à l'époque et il me semble que vous aviez dit la même chose.
Je deviens gâteux.
Non,
je me répète.
Justement, c'est, si on se répète, c'est plutôt que.
Vous savez,
que
c'est ce que disait un vieux monsieur que je connaissais. Il disait dans la vie, il faut ou se répéter ou se contredire.
Oui.
Moi, j'en suis arrivé à me répéter.
Oui.
J'ai du mal à me contredire.
Bah,
comme j'ai toujours raison.
Bah oui. C'est plus difficile de se contredire dans ces cas-là.
Bah oui, quand vous avez raison, qu'est-ce que vous voulez dire, mon pauvre ami?
Oui, si la vérité n'est pas multiple, effectivement. Donc voilà, ça c'était un premier exemple, mais enfin évidemment il y a quand même la séquence Covid qui était hyper importante.
Il était particulièrement brillant sur ce coup-là.
Il était particulièrement brillant sur la séquence Covid.
Qu'est-ce qui est arrivé au croque-mort qui venait tous les soirs nous annoncer avec un air lugubre qu'il y allait avoir, il y avait eu 2787 gars, je sais pas
comment. Salomon,
comment il s'appelait celui-là, qu'est-ce qu'il est devenu, vous savez pas?
Alors je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu, c'est une bonne question.
Il est passé comique quelque part.
Je sais pas, il est peut-être devenu animateur de croisière. Je sais pas ce qu'il est devenu.
Tu sais pas ce qu'il est devenu celui-là.
J'imagine.
Il avait une tête, un croque-mort, ça, le croque-mort Lucky Luke.
Bien sûr, avec ce cérémoniel tous les soirs.
Ils arrêtaient les nouvelles pour dire on a le nombre de morts aujourd'hui et tout le monde commençait à flipper dans sa chaise.
C'était génial, j'ai adoré cette époque.
Ça a été un grand moment de solitude.
En plus de ça, on était tous à la maison puisqu'il y avait le confinement.
Rien à foutre.
Donc en plus de ça, il y avait pas grand chose d'autre à foutre que regarder la télé. Et effectivement.
Vous pouvez lire. Il y a des tas de gens qui ont écrit des livres très intéressants depuis des siècles, dont je suis sûr que vous ne les avez pas tous lus. Plutôt que d'écouter M. Salomon, ce que je me tue à dire aux gens, c'est essayer de lire des gens intelligents qui ont écrit il y a deux siècles, parce que c'est beaucoup plus important que les Salomon ou les Véran de ce temps. Mais il paraît que des jeunes ont besoin qu'on peut leur parler que pendant 30 secondes parce que sans ça leur niveau s'écroule intellectuellement. Ils ont une capacité de compréhension qui est paraît-il de 30 secondes. J'arrive pas à le croire.
Il y a le temps d'attention il semblerait en chute libre. Peut-être à cause des programmes comme TikTok et autres où forcément.
Mais moi je regarde TikTok tout le temps.
Oui, mais peut-être que vous avez été déjà formaté avant. Si on regarde TikTok à partir de 13-14 ans, peut-être on n'est pas habitué à avoir un temps d'attention un peu plus long. Donc, mais si ça se trouve, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Ça se trouve, c'est ce qu'on dit parce qu'ils regardent TikTok et tout, mais si ça se trouve, on peut tout à fait les remettre à la lecture, ces gamins. À mon avis, c'est pas impossible.
Vous savez, pour lire autrefois, on n'allait pas dans les endroits où il se passait des choses, comme au bord de la mer, où on était quelque part dans une campagne française où il n'y avait personne à 10 km à la ronde. Et donc, tout ce que vous pouviez faire, c'est aller dans la bibliothèque et si vous disiez à votre mère ou à votre père « je m'ennuie », Ma mère me disait, il n'y a que les crétins qui s'ennuient, donc va prendre un livre et va lire. Quoi,
ouais, alors ça aussi, il me l'a beaucoup fait, mon père. Ça.
Ah ouais, le coup
il
n'y
a que les idiots qui s'ennuient. Oui, oui, ça, s'ennuient,
surtout quand tu as une bibliothèque à ta disposition. Donc.
Ça, j'ai bien connu.
Alors j'ai essayé de trouver les livres interdits dans la bibliothèque. Ils étaient au fond, là-bas, il fallait les trouver, mais enfin, il y en avait quand même. Quoi.
Ouais.
Qui étaient des livres pas convenables. Enfin.
Alors du coup, moi, comme je ne voulais pas m'engager sur un temps de lecture trop long, souvent, je lisais du théâtre.
Ah, donc, ça, j'ai jamais fait, ça. Comme si ça, j'ai fait avec Musset.
J'ai beaucoup lu, du coup, Molière, j'ai beaucoup lu Corneille, j'ai beaucoup aimé Corneille. Souvent, je prenais ça parce que c'est plus rapide à lire.
Je faisais ça avec Musset, j'ai eu un grand moment Musset, oui.
Ouais, c'est pas mal, Musset.
C'était très bien.
J'ai bien aimé aussi. Donc, pour
vous
revenir
pas
sur...
que Véran l'a fait, ça.
Ça, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, là, c'est pas tellement...
C'est sympathique.
C'est pas tellement le programme, là. Le 10 juillet 2022, Olivier Véran prétendait que les masques étaient de retour dans les transports en commun. Alors ça, c'est un petit mensonge, parce que c'est difficile de vérifier de manière purement statistique, mais c'est-à-dire que c'était quelque chose qui n'était pas vrai, et il prétendait que c'était vrai. Voilà,
dans les transports en commun, c'est-à-dire qu'il y avait...
C'était en plein juillet 2022.
Il y avait un règlement qui forçait les gens à mettre les masques.
Non, il disait que les gens recommençaient à le mettre de manière volontaire.
Alors, oui, d'accord.
Voilà. Donc il prétendait ça en disant, voilà, regardez, c'est formidable. Bon, enfin, évidemment, c'était pas vrai. Le 25 juillet 2021, il annonçait à l'Assemblée que le pass sanitaire n'allait pas être prolongé au-delà du 15 novembre 2021. Il était très sûr de lui. Il disait, voilà, ça ne sera pas prolongé au-delà du 15 novembre 2021.
En principe, au départ, on ne devait pas y en avoir de pass sanitaire, puis on l'a eu quand même, non?
Alors oui, tout à fait. Bah déjà, oui, pour revenir à l'origine...
Je l'ai toujours sur mon téléphone. Qu'est-ce qu'on en fait? On la vire, là?
Gardez-la au cas où, parce qu'on sait jamais. Si jamais il y a une épidémie de grippe variant, je sais pas quoi, sait-on jamais. Mais effectivement, il faut rappeler que le 3 juin 2021, donc c'était pas longtemps avant, ils disaient totalement opposés à la notion même de passe sanitaire. Dans les restaurants, dans les salles de cinéma, ils se disaient opposés, je cite, à une société de ségrégation basée sur cette distinction d'ordre sanitaire. Juste après, le pass sanitaire est décrété. Le 25 juillet, il dit « Vous inquiétez pas, ce sera pas au-delà du 15 novembre ». Et deux mois plus tard, donc le 29 septembre, c'est Gabriel Attal, qui était donc porte-parole du gouvernement, qui annonçait l'inverse, donc en prolongeant le pass, a priori jusqu'à l'été 2022. Donc ça aussi, c'est à chaque fois, on fait passer des trucs en disant « Vous inquiétez pas, ce sera pas au-delà de temps ». Et au final, bah,
mais c'est toujours pareil, si vous voulez, ils vous disent « Non, non, vous pouvez... Vous savez, j'avais un de mes associés il y a longtemps qui avait son père, qui était un jeune homme dans l'inspection des finances, et qui avait été voir vers 42-43 son chef, qui était servi Pétain à l'époque, en lui disant « Qui je dois servir, Pétain ou De Gaulle ?» Et le chef avait dit « Il faut que vous serviez De Gaulle, bien entendu. » Et donc l'autre était parti avec De Gaulle, et il devait demander à son chef « Mais pourquoi êtes-vous resté avec Pétain ?» Il a dit « Parce que d'abord, j'ai fait des choses abominables, mais petitement. C'est-à-dire, jamais on m'a demandé de trahir. On m'a demandé de trahir un petit peu, puis un petit peu à gauche, et à la fin, vous vous retrouvez ayant trahi dans tous les sens. Donc, la progression du mal, c'est jamais, on vous met jamais en face d'un choix. Est-ce que vous acceptez les camps de concentration ? J'en sais rien. » On vous dit, est-ce que vous acceptez de conduire un train qui va amener...
Oui.
Et vous dites, bah oui, si je suis trois fois plus payé...
Si vous demandez à plusieurs personnes d'enchaîner des petites trahisons, fin, on peut mettre des gens...
Aucun d'entre eux n'a fait des trahisons. Donc c'est toujours comme ça qu'ils progressent, c'est-à-dire qu'ils vous disent toujours, écoutez, on va mettre en danger vos libertés fondamentales, mais ça sera pendant 3 mois. Mais ce que vous voyez
pas... Ce sera au nom du bien.
Ce sera au nom du bien, mais ce que vous voyez pas, c'est qu'ils ont mis en danger vos libertés fondamentales et qu'à la prochaine occasion, ce sera pas 3 mois, 6 mois, puis 12 mois, puis 18 mois. Et si vous désobéissez, ce sera le camp de concentration. Donc, il faut dire non tout de suite. Si vous dites pas non tout de suite, vous êtes parti pour un voyage où à la fin, vous aurez dit oui tout du long. Et on se damne à coups de petits mensonges.
Mmh.
C'est effrayant.
Oui, tout à fait. De toute façon, à chaque fois, il y a plein d'ouvertures de brèches comme ça. C'est un peu le...
C'est toujours la même chose.
C'est la technique.
Enfin, vous n'allez pas faire un drame parce qu'on met des enfants dans des cars.
Ouais. C'est à chaque fois la technique du pied dans la porte. C'est-à-dire que vous paraissez tout à fait...
Vous passez exagéré. Votre réaction est excessive.
Oui.
vous manquez d'éducation.
Voilà. Et au pire, ce qu'ils disent, c'est au pire, si jamais vous avez raison, ne vous inquiétez pas, ce sera bientôt levé, etc. Mmh. Et à chaque fois, c'est reconduit, c'est reconduit. Bon, alors aujourd'hui, fort heureusement, on en est sorti, mais effectivement, est-ce qu'on saurait prédire s'il recommence pas ?
Mais on n'en est pas sorti parce que regardez, le Conseil d'État a pris toute une série, n'a jamais rien dit, ou a entériné tous ces mouvements, et qu'est-ce qu'on découvre maintenant? C'est que le Conseil d'État est en train d'essayer de nous empêcher de parler librement, de parler CNews librement. Mmh. Donc le Conseil d'État a pris l'habitude de décréter ce que les Français ont le droit de voir, de dire, de pas voir, de pas dire, etc. Mais le Conseil d'État n'a rien à voir avec tout ça, et CNews est libre, et le Conseil d'État n'a rien à dire sur les gens qui parlent à l'intérieur de CNews. Mmh. Donc toute cette classe dirigeante est en train de grignoter. Un coup, c'est le Conseil d'État pour CNews. Demain, ce sera d'aller à la messe le dimanche qui vous mettra dans une position difficile dans l'administration. J'en parle de connaissance de cause, puisque il y avait eu dans les années 1905, grande époque, des fiches qui avaient été faites sur tous les officiers de l'armée française qui allaient à la messe le dimanche. Mmh. Et ceux qui allaient à la messe le dimanche, les promotions s'arrêtaient.
Voilà, ils n'étaient pas dans le tableau d'avancement.
Mais en 1914, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas les plus mauvais qu'on avait mis.
Oui.
Donc on les a rappelés en vitesse.
Oui, oui. Et là, on en a besoin.
C'est comme ça que Pétain est passé en quelques semaines de colonel à général, je sais pas quoi.
Oui. Effectivement, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans notre histoire.
C'est une espèce de lent grignotage. Oui. Des petits hommes gris et quelque chose dont il faut se méfier comme de la peste.
Ouais, et aujourd'hui, alors il semblerait que certains parlementaires sont en train de plancher sur un projet qui vise quand même à restreindre la liberté d'expression dans le cadre privé.
Oui, j'ai vu ça.
Voilà. Donc, ça aussi.
J'ai vu ça, c'est-à-dire que, bah, par exemple, je fais quelques remarques, je sais pas. Je raconte une histoire qui est pas convenable, et vous dites, mon chef qui m'a fait ça, on était en train de rigoler tous les deux en bouffant au café d'à côté, il m'a dit un truc qui était pas convenable, vous faites une note, et vous envoyez à la commandante tour.
Ouais.
Et vous envoyez à la Gestapo, comme ça.
Ouais, et là, il y a une armée de blindés qui débarque devant.
Et là, je me fais arrêter, j'ai plus le droit de parler nulle part, on m'envoie. Et c'est toujours cette espèce d'appel à la délation. C'est pas les meilleurs dans le peuple qui écrivaient à la commandante tour, quoi.
Oui, c'est sûr. Et là, pour le coup, c'est pas du tout exagéré, parce que ça fait pas mal de temps que, pour un peu tout et n'importe quoi, on peut vouloir comparer ce qui se passe avec les romans de George Orwell et tout, mais c'est pas du tout exagéré de le faire dans ce cas de figure.
Avec George Orwell, il y avait même des télévisions qui écoutaient ce que vous disiez à l'intérieur.
Voilà.
Et moi, je me souviens, j'avais un professeur de gauche quand j'étais en première, je crois, je sais plus où. Et un jour, j'avais fait une remarque en histoire, c'était en un cours d'histoire, etc. Il m'avait regardé l'air très méchant, il m'avait dit « Monsieur Gave, je vous interdis de parler, bon, et même de penser. » J'ai dit « Tiens, ça, c'est original. Un professeur qui m'interdit de penser, je me suis dit « En voilà un qui va développer mon cerveau de façon admirable. » Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que cette interdiction de penser, etc., maintenant, c'est la gauche qui les pousse. La gauche est devenue censitaire, la gauche fait empêcher les gens de parler, c'est la gauche qui est... Alors là, j'en reviens pas.
C'est parce que, précisément, elle sent le pouvoir... comment dire ?
Elle a perdu le logos.
Elle est en train de perdre le logos, effectivement. C'est pas tellement ses idées qui ont la cote aujourd'hui.
On vient de le voir aux élections portugaises.
Voilà, là,
c'est une élection générale. Les socialistes portugais qui sont au pouvoir de façon interrompue, tu sais pas combien de temps, pouf, ouais. Ils ont pris une claque.
Effectivement, et c'est le
et
parti.
C'est les méchants qui ont perdu.
Voilà,
qui ont gagné.
C'est les méchants qui ont gagné.
Une fois encore.
C'est les copains, effectivement, de Marine Le Pen, du Rassemblement National, qui ont pris 10 points, qui sont passés de 8 à 18, et c'est eux qui ont pris le plus de.
Et ça, c'est jamais prévu par les sondages.
Alors ça dépend, mais dans ce cas de figure, c'était effectivement au-dessus de ce qu'avaient prévu les sondages, tout à fait. C'était sous-estimé. Pareil, on se souvient pour l'élection de Donald Trump, c'était une surprise par rapport à ce que les sondages prévoyaient.
Et l'arrivée des députés FN à la Chambre des députés aussi, là, c'était le le truc complètement inattendu. Donc ouais. Tout ce que j'espère, c'est qu'au moment des élections européennes, on va se débarrasser de tous ces ventres mous, de ce que De Gaulle appelait les fromages blancs, c'est-à-dire les chrétiens démocrates et les sociodémocrates qui disent toujours oui à toutes les tyrannies, à toutes les saloperies, à condition que leur tartine reste bien beurrée, quoi, bien entendu, et qu'il y ait un renversement de majorité. Parce que si l'Union européenne n'a plus cette espèce de ventre mou qui vote pour toutes les décisions abominables que l'Europe a prises, ben, ils ne pourront plus progresser. Mmh. Et d'ailleurs, Mme von der Leyen ne sera pas élue par le Parlement.
Oui, tout à fait.
Que ce sera un bonheur total.
Parce que, effectivement...
Qu'elle retourne se faire juger en Allemagne.
Parce que, tout à fait, elle était une sorte de congrès du PPE la semaine dernière, au cours duquel elle a été adoubée, par le PPE. Mais alors, il faut quand même regarder un peu le détail de cette affaire. C'est-à-dire que, en fait, c'est une courte majorité de parlementaires du PPE qui ont dit « Ok, très bien pour reconduire von der Leyen ». Le truc, c'est qu'il y a quand même beaucoup de parlementaires au sein du PPE qui n'ont pas exprimé leur avis sur la question. Puisqu'en fait, elle se présente pour être reconduite à la tête de la commission, mais personne d'autre ne se présente. Donc elle est sans opposition, donc forcément elle passe. Je pense que un des enjeux aussi de ces élections européennes, c'est de faire exploser le PPE en deux. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui a envie de trahir, voilà, bon, bah, ça on la connaît. Elle préfère s'allier avec les communistes qu'avec ceux qui sont juste à leur droite. Et il y a une partie pour qui c'est pas forcément infamant de travailler avec Marine Le Pen ou avec ses copains. Et pour cette partie-là, va falloir un petit peu mieux choisir son équipe, quoi.
Enfin, donc on a eu une espèce de détournement du suffrage universel. Et il faut absolument que le peuple reprenne le contrôle, soit en virant tous ceux qui l'ont trahi, soit en annulant le référendum d'initiative populaire. Parce que ce qu'on a appris dans les 30 dernières années, c'est que vous ne pouvez pas faire confiance à la démocratie représentative. Si vous avez un gars dont vous dites il est bien, il va voter pour moi, puis Pfizer ou... n'importe qui s'approche de lui et qui lui offre suffisamment d'argent pour s'occuper de lui et de ses enfants pendant des siècles, il trahira. C'est trop facile d'acheter ces gens-là. Vous avez besoin d'acheter 200 personnes, ce qui coûte rien par rapport à ce que vous allez toucher sur les vaccins après. Donc, pour moi, il y a maintenant beaucoup trop d'argent dans le système pour continuer à faire confiance à la démocratie représentative. Aujourd'hui, quand je vois un député, quand je vois un sénateur, je me dis, c'est la même chose aux États-Unis d'ailleurs, qui l'a acheté et pour combien ? Je n'ai plus aucune confiance dans le personnel élu, parce qu'ils n'ont plus d'honneur.
Ouais. Oui, on ne se pose pas forcément la question.
Ce qui ne veut pas dire que je dis tous pourris. Je ne dis pas du tout tous pourris. Je dis, il y a des niveaux d'argent qui sont maintenant dans les systèmes à la disposition des États, des subventions et tout, qui font qu'il est à peu près impossible pour un homme normal de résister à la corruption.
Ouais.
Le vrai problème, c'est pas ceux qui se font corrompre, c'est que ceux qui corrompent ont beaucoup trop d'argent. C'est absolument inimaginable le pognon qu'ils lèvent. Donc ça veut dire qu'on peut plus confiance, on peut plus faire confiance à la démocratie représentative. Mmh. C'est quand même c'est désolant, mais c'est comme ça, quoi.
Ouais. Mais alors comment y remédier ?
Il faut simplement de redonner le droit. On avait délégué notre pouvoir à des représentants. On reprend ce pouvoir et on vote nous-mêmes. Mmh. Vous savez, avec un système blockchain, vous pouvez faire voler des gens de façon secrète 3 fois par semaine, ou même 3 fois par jour, ou 3 fois par minute, si vous voulez. Hein.
Oui, c'est vrai.
Donc, il n'y a aucune raison. La technologie permet aujourd'hui la démocratie directe en 2 minutes. Quoi. Mais ça ne coûtera rien.
Ouais. Si tant est que le système mis en place, on peut lui faire confiance, parce qu'effectivement, c'est tout à fait possible d'avoir un système avec la blockchain, etc.
Oui, mais en tout cas, si vous voulez, à ce moment-là, il y a des gars qui vérifieront plus facilement que d'aller vérifier si les gars aux États-Unis ou en France sont vraiment ceux qui votent.
Oui, parce que c'est sûr, les machines à voter aux États-Unis...
Les machines à voter, ça, c'est qui d'un seul coup découvre 70 000 voix pour un candidat ou l'autre, comme ça, en 5 minutes, alors que personne n'a voté entre-temps.
Ouais.
Vous dites, tiens, il y a un loup.
Oui, effectivement.
Et dès le moment où le peuple se dit ils sont en train de me trahir, ça devient très grave parce que la démocratie, la notion de démocratie perd toute légitimité.
Mmh. Bah, c'est un peu le problème.
C'est ce qu'on voit.
Oui,
quand vous avez un crétin comme Véran qui se met à dire des bêtises et qui, d'une jour à l'autre, soit se fait démentir, soit se fait prendre des mensonges, etc., vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que ou c'est une crapule ou il est idiot.
Ouais. Ou juste il se
fout. Ou les deux, d'ailleurs, c'est pas exclusif. Oui. Hein.
Et le problème étant que ce genre de gars, jamais, en fait, il n'est responsable de ses propos. Parce que...
Mais c'est ça le vrai problème, si vous voulez, c'est que l'exercice du pouvoir exige la possibilité que celui qui exerce le pouvoir soit foudroyé, s'il s'est trompé, etc. Aujourd'hui, vous avez des gars qui exercent le pouvoir et qui exigent de ne jamais être foudroyés, qu'il leur arrive jamais rien.
Ils ne peuvent pas se tromper.
Et c'est pas qu'ils peuvent se trompent-ils ? Il continue de façon un peu vide. Regardez, Juppé a continué de façon un peu vide. Fabius aussi. Il en a 25. Et donc, vous vous dites, à partir du moment où le pouvoir, c'est que des privilèges sans responsabilité, c'est inacceptable.
Effectivement. Et c'est exactement ce qu'on a senti, en fait, avec Olivier Véran lorsqu'il était ministre de la Santé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il mentait. Et il n'y avait aucune conséquence derrière. Mmh. Et par exemple, le 17 mars 2022, il y avait eu une levée récente des restrictions. Et à ce moment-là, il se justifie sur la levée de ces restrictions avec l'argument qu'il avait toujours combattu avant, qui était le nôtre, qui était de dire « Regardez, dans tel autre pays, il y a aussi des restrictions, et pourtant, hop, le nombre de contaminations monte, etc. » À chaque fois, il y avait des cycles comme ça, des vagues, qu'il y ait des restrictions ou pas. Donc finalement, qu'il y ait ces vagues, restrictions ou pas, finalement, il vaut mieux ne pas avoir de restrictions et avoir ces vagues quand même.
Comme en Suède.
Enfin, je veux dire, c'est du bon sens. Et évidemment, il avait toujours combattu cet argument de bon sens, en disant « Non mais vous vous rendez compte, c'est trop risqué, etc. » Et donc le 17 mars 2022, il justifiait sur la levée des restrictions en disant que d'autres pays, il citait l'Allemagne, l'Italie je crois, qui avaient des restrictions comme le pass vaccinal ou le masque obligatoire, avaient quand même un pic épidémique. Et du coup, c'était pas la peine de remettre ces restrictions-là en France. Et ça, je trouve ça absolument pervers. C'est-à-dire que d'un seul coup, il utilise cet argument comme s'il était absolument évident, alors que pendant les deux années précédentes, il n'a fait que le combattre, cet argument.
C'est ce que j'avais vu en Suède, encore une fois, où... celui d'après la constitution suédoise, s'il y a un état de pandémie qui se déclare, c'est au responsable scientifique qui a été nommé par le gouvernement de façon et qui est autonome de prendre les décisions. Et le type a dit, ça sert à rien en cas de pandémie, d'abord de vacciner parce qu'on vaccine jamais dans une pandémie, et parce que ça fait que monter le truc, et ensuite d'enfermer les gens parce que s'ils sont tous enfermés, s'il y en a un qui est là. Et vous mettez tout le monde dans une pièce avec des gars qui n'ont pas... Et tout le monde l'attrape. Donc c'est beaucoup mieux de les laisser courir partout. Et la Suède a eu beaucoup moins de morts et n'a eu aucun effet économique. Donc vous vous dites, voilà des gens qui n'ont aucune compétence particulière, qui se sont fait prendre en flagrant délit de mensonge et qui nous ont collé pour 300 milliards d'euros de dettes pour un résultat exactement égal à zéro.
Ouais.
Voilà, pendant le Covid, la dette suédoise a baissé. Elle a baissé.
C'est assez hallucinant. Ouais.
Et nous, elle est montée de 300 milliards d'euros. Donc, on a dépensé 300 milliards d'euros et vous ne pouvez pas vous empêcher de demander, mais.
Pour rien.
Mais je suis sûr que ça n'a pas été perdu pour tout le monde. Hein. Je suis bien persuadé qu'il y a des gars, des firmes pharmaceutiques qui ont dû s'en foutre plein les fouilles et qui ont dû contribuer à la réélection de Macron. Mais c'est cette absence totale de. Je fais une énorme boulette, je bâtis la ligne Maginot, les Allemands sont à Paris et je dis c'est pas grave, les gars. C'est moi qui avais raison. Continuons comme si de rien n'était. Eh ben non. La démocratie, c'est quand même la responsabilité de celui qui prend les décisions. Moi, je trouve que le chef, sa grandeur, c'est de mourir s'il s'est trompé.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans un
système...
On
n'a pas de chef non plus.
Ça. Alors, on n'a pas...
On n'a pas de chef. C'est ce que disait De Gaulle dans ses mémoires sur Lebrun, le président de 1940, qui était venu lui rendre visite en 1945. Et De Gaulle écrit dans ses mémoires, j'ai vu arriver le président Lebrun. Le problème, c'est le chef de l'État. Le problème, c'est qu'il n'y avait plus d'État et que ce n'était pas un chef. Mais tous ces gens, si vous voulez, il n'y a plus d'État. Si vous regardez la France de Macron, il n'y a plus d'État. Et ça n'est pas un chef. Et comme toujours dans l'histoire de France, quand on n'a plus d'État et qu'on n'a plus de chef, c'est la déroute à Paris, c'est la déroute en France, et tout s'arrête, plus rien ne marche. C'est bizarre, ce pays.
Oui, très étrange.
Il a besoin de quelqu'un qui incarne comme un père. Quelqu'un, ouais. Quelqu'un qui incarne le bien, le juste, le droit, le vrai.
Oui, oui, effectivement, mais je pense que c'est pas si étrange que ça, quelque part. C'est peut-être quelque chose qui vient du fond des âges, de la royauté.
Oui, je crois, c'est un petit peu, vous savez, ici, j'ai un bouquin de Tolkien.
Oui.
Ben, vous savez, il y a, je crois, une des trois bouquins de Tolkien qui s'appelle Le Retour du Roi, quoi.
Oui.
Jusque-là, ça veut rien de marcher, puis il y a le retour du roi, et hop, ça se remet en marche. Et donc, c'est pas que je sois royaliste, c'est que je dis, il y a quand même cette espèce d'incarnation qui se passe en une personne qui, à un moment, représente le pays, dans lequel les gens reconnaissent qu'il incarne le pays, et à ce moment-là, le suivent, et quelles que soient leurs orientations politiques. Et aujourd'hui, c'était Churchill en Angleterre, ou des gens comme ça, mais aujourd'hui, en France, Véran, c'est Chamberlain, quoi.
Oula.
C'est Daladier, et encore, même pas.
Oula, et encore. Hein. Et encore,
parce qu'ils étaient brillants, les deux.
Et encore, parce qu'effectivement, je dirais pas qu'Olivier Véran est particulièrement brillant. Je pense qu'il est...
C'est plutôt Laval, oui.
Ouais. je vois vraiment pas beaucoup de qualité dans ce mec, vraiment pas. Il y a des gens qui sont très mauvais, mais qui ont quelques qualités. Lui, il en a vraiment aucune.
Mitterrand, j'ai toujours été l'ennemi. Le truc, il était abominable. Je n'aimais pas du tout ce qu'il faisait et tout. Mais il avait une espèce de grandeur noire qui fait que quand il était à l'extérieur de la France, j'avais pas honte de lui. Tandis qu'aujourd'hui, le président de la République actuelle, quand il est en dehors de France, je me dis, mais quelle connerie va-t-il dire encore? C'est extraordinaire d'avoir honte de son président dès qu'il est en dehors des frontières.
Ouais, effectivement.
C'est curieux.
Ouais.
Ça aussi, c'est pas normal.
Oui, à chaque fois, on se dit, voilà, qu'est-ce qu'il va balancer encore?
Avec qui il va se fâcher?
De quoi on va avoir l'air?
Avec qui il va se fâcher?
Ouais. Il est capable de se fâcher avec tout le monde, donc ça, c'est quand même assez inquiétant.
C'est incompréhensible.
Ouais. Avant de passer à Jacques Attali, je voudrais, parce qu'on est maintenant sur toutes les petites phrases.
Oui.
Il y a une proposition d'Alain Minc d'hier, je crois, qui date d'hier. Alors, Alain Minc, cet immense libéral, bien sûr, qui propose, parce qu'on a aujourd'hui ce problème de déficit, de dette publique, Bruno Le Maire qui dit que c'est terrible, on n'a pas eu les recettes fiscales qu'on espérait.
Ce qui est stupéfiant, parce qu'on l'avait dit 6 mois avant qu'il ne les aurait pas.
Mais... Oui, mais Alain Minc donc dit il faut augmenter les impôts.
Ben voyons.
Voilà, il faut augmenter les impôts, parce qu'on va avoir un incident sur la dette, c'est ce qu'il dit.
Je voudrais poser une question à M. Minc, qui est un homme tout à fait savant, etc. Est-ce qu'il connaît un cas dans l'histoire, mais un cas où augmenter les impôts a réduit le déficit budgétaire?
Un seul cas. C'est une bonne question.
Parce que moi, en tant qu'économiste, j'ai jamais pu en trouver.
Non, j'en ai pas, là.
Non, mais ce que je veux dire, la seule façon de réduire le déficit budgétaire, c'est de couper les dépenses de l'État.
Ouais.
Mais augmenter les impôts, ça n'a jamais marché nulle part, en aucun cas. Donc, ou c'est un crétin... Où ils pensent en bon comptable que si on augmente les impôts, les rentrées vont augmenter, alors qu'on a largement passé le moment où l'impôt tue l'impôt, c'est-à-dire que plus vous montez l'impôt, plus le déficit augmente. Oui. Donc, ou il ne le sait pas, et c'est un crétin, ou il le sait, et c'est un lâche. Il essaye de se faire bien avoir du pouvoir en place.
Ouais. À mon avis, il ne le sait pas et c'est un crétin. Je pense, venant de Minc.
C'est pas impossible.
Minc, je pense que c'est un vrai crétin pour le
coup. C'est un vrai crétin, je connaissais un petit peu. Mais comment il s'appelait le gars en Italie, là, De Benedetti. C'est Minc qui l'a quasiment coulé, quoi.
Bah oui.
Qui a quasiment ruiné De Benedetti en essayant de lui faire prendre le contrôle de la Société Générale de Banque de Belgique. Et c'est De Benedetti, il a laissé la moitié de sa fortune sur les conseils de Minc. Donc,
d'accord, génial.
C'est pour ça, quand je vous disais tout à l'heure que je verrais bien leur portefeuille, j'aimerais bien voir le portefeuille de M. Minc.
Ouais.
Je suis sûr qu'il en a un. Mais... J'aimerais bien le voir s'il investit son portefeuille en fonction des idées qu'il vend aux autres.
Ce serait intéressant, effectivement.
J'aimerais que le portefeuille de Minc, personnel public, qui nous explique quand il achète, quand il vend et pourquoi.
C'est vrai qu'on devrait poser cette question à ces gens, surtout qui ont des
puisque
avis sur
puisque vous voulez
la,
gérer la France, montrez-nous comment vous gérez votre portefeuille pour commencer.
Tout à fait. Vous voulez gérer l'économie française, montrez-nous comment vous gérez vos économies d'abord. Et
parce que le but de la gestion, c'est de repérer là où il y a de la valeur qui est créée.
Ouais.
Et puis pour essayer de l'attraper en achetant. Mais s'ils ne sont pas capables de repérer là où la valeur est créée, que me donne-t-il des conseils sur la gestion de la France?
Je suis assez d'accord. Et il dit donc qu'il faut augmenter notamment la TVA et l'impôt sur les revenus les plus élevés.
Ben voyons.
Et il rajoute, et ça c'est une phrase que je trouve absolument géniale, « Il y a le feu, il faut se méfier des marchés ». Je crois que ça dit tout, en fait, de la pensée de Minc.
L'absence de pensée. L'absence de pensée. Heureusement qu'il y a les marchés, parce qu'il n'y aurait pas les marchés, on aurait toujours l'Union soviétique.
Ouais.
Mais Minc, c'est simplement un agnan de plus qui n'a pas très bien réussi.
Agnan...
Oui, il a été premier de grande classe toute sa vie.
Oui, je crois qu'il a été premier de la classe, parce que je pense que la maîtresse était corrompue aussi.
Non, je ne pense pas, parce que lui, c'est un fils d'immigré polonais, je crois. Il a fait de brillantes études, mais c'est pas parce que vous avez fait de brillantes études que vous êtes incapable de réfléchir et deux, vous êtes juste capable de répéter ce qu'on attend de vous. Mais donc Minc, ça fait des années qu'il traîne. C'est un personnage à la fois. Il est déroutant parce que il s'est donné tellement de mal pour être au cœur du pouvoir et il a tellement peu d'idées sur la façon dont ça marche dans la réalité que c'est très curieux. C'est le gars qui. Vous savez, c'est pas qu'il est bon à rien, comme dans Pagnol, c'est qu'il est mauvais en tout.
C'était Emmanuel Todd, je crois, dans une émission de Thinkerview, qui justement parlait d'Alain Minc et qui disait « Je ne sais pas si quelqu'un a autant eu tort dans sa vie qu'Alain Minc. »
Il y avait Revel qui écrivait admirablement, qui avait fait une phrase... Quand vous êtes à un niveau intellectuel très important, il y a deux politiques. Ou vous faites comme Raymond Aron en travaillant très durement et vous n'avez jamais tort. Ou vous faites comme Alain Minc, vous travaillez très durement et vous n'avez jamais raison. Ce qui était une façon de sciopathe.
Ouais.
C'était, il a jamais eu raison sur rien. Il a écrit 25 bouquins.
Ouais.
Et j'imagine que chacun de ces bouquins doit se vendre à 200 exemplaires.
Ah oui.
Je ne sais pas
qui achète.
C'est comme les bouquins d'Atali d'ailleurs. Ouais. Qui les achète?
Effectivement, c'est une bonne question. Peut-être qu'il pouvait en vendre quelques-uns dans les années 80-90.
Oui, parce qu'il était proche de Mitterrand, je disais.
Mais depuis quelques années, je pense qu'ils vont que dalle. Pour passer justement à Jacques Attali, j'ai passé un peu.
C'est pas qu'on cherche à dire du mal des gens, c'est qu'on ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ces gens qui se sont trompés surtout depuis 30 ou 40 ans, qui ont amené la France dans les malheurs dans lesquels elle est, en étant toujours partisans des mauvaises solutions, pourquoi ces gens-là continuent-ils d'être écoutés? Quand un type s'est planté, moi j'ai vécu 25 ans à Londres, quand il s'est planté de façon monstrueuse, quand il s'est pas bien tenu ou n'importe quoi, il disparaît, on le voit plus. Mais en France, ces gars-là qui sont trompés sur tout, qui sont tenus comme des cochons, qui ont dit du mal de notre pays, qui nous ont traités de tous les noms, et qui ensuite arrivent et continuent à dire des saloperies, vous vous dites, mais...
Non mais
pourquoi qui leur tend le micro?
On ne dit même pas du mal de ces gens, juste on rapporte leurs propos. Ouais, et ensuite, c'est aux auditeurs de juger la pertinence de ces propos. Donc par exemple, si on prend Jacques Attali, en décembre 2022, il écrit un article pour essayer de dire voilà ce qui va se passer selon moi pendant l'année 2023. Et alors, là je lis l'article qui est devant mes yeux. Il dit « Pour 2023, au risque de surprendre mes lecteurs, habitués à me voir les mettre en garde contre les catastrophes possibles, mon intuition est que tout peut aller beaucoup mieux. On ne peut pas exclure... » On ne peut pas exclure une victoire ukrainienne sur l'armée russe.
C'est déjà une ânerie.
Une démission du tyran de Moscou. Une réduction massive de l'inflation. Bon. est-ce qu'on peut faire mieux? Bon. On peut aussi espérer que le magnifique combat des femmes en Iran, en Afghanistan et dans bien d'autres pays portera ses fruits et nous débarrassera de ces régimes abominables. Bon. Force est de constater que tout ceci ne s'est pas produit durant l'année 2024. Là, on est le 12 mars 2000, pardon, pendant l'année 2023. On est le 12 mars 2024. On a vu ce qui s'était passé pendant l'année 2023. On a pu digérer un peu. Ce n'est pas arrivé. Mmh. Voilà. Mais ce qui est formidable, c'est que un peu plus loin, il dit bien sûr, on ne peut exclure le pire. Il dit l'un, mais l'inverse est possible. Comme ça, on ne sait pas. On ne peut exclure le pire, l'effondrement de l'armée ukrainienne. Donc là, bon. Un dérapage inflationniste majeur. Une paralysie de la France au moment de l'annonce d'une réforme très impopulaire des régimes de retraite. Bon, alors parler de paralysie, c'était peut-être un peu exagéré. Ou d'un effondrement de notre système de santé ou de notre système scolaire, si l'un et l'autre sont malmenés. Une offensive de la Chine sur Taïwan.
Quel âne.
Pour détourner l'attention des ravages de la pandémie du Covid. Une attaque préventive israélienne sur l'Iran. Bon, si ce pays s'approche trop de l'arme nucléaire, un missile nucléaire nord-coréen sur le Japon, un chaos au Nigeria et en République démocratique du Congo, si les élections qui doivent y avoir lieu ne sont pas transparentes et acceptées par tous. Bon, alors c'est quand même... il est fort,
c'est,
hein.
C'est-à-dire, c'est le... c'est tout et le contraire de tout, comme ça, il n'a pris aucun risque. Mais bon, vous êtes un homme politique, vous achetez les conseils d'Attali ou de Minc qui vous sortent des papiers comme ça. Vous dites, vous l'appelez, vous lui dites, cher ami, qu'est-ce que je fais maintenant? J'achète ou je vends?
Oui.
Vous voyez, c'est toujours la question que je pose aux gens, c'est montrez-moi le résultat dans votre vie de tous les jours des réflexions si profondes que vous avez faites là-dedans. Qu'est-ce qu'il a fait? Je voudrais, encore une fois, mais montrez-moi vos portefeuilles, le portefeuille d'Attali, le portefeuille de Mac, le portefeuille de Véran, parce que, encore que le portefeuille de Véran, il avait peut-être des informations privilégiées sur le fabricant de vaccins qu'il fallait acheter. Oui. Enfin, ça, c'est autre chose.
Il y a peut-être du délit d'initié là-dedans.
Sauf qu'aux États-Unis, c'est pas interdit. Hein. Les hommes politiques ont le droit de faire des délits d'initié, c'est les seuls d'ailleurs. C'est comme ça que la patronne des représentants...
Oui, Nancy Pelosi.
Nancy Pelosi fait une fortune, mais alors gigantesque, avec son cher mari qui achetait des options sur les titres. Enfin, donc, mais enfin, elle est de gauche, donc on peut lui pardonner.
Oui, bien sûr.
Donc voilà, si vous voulez, c'est que... Ce sont des cuistres. Ce sont la définition du cuistre, c'est-à-dire le type qui emploie des grands mots dans l'espoir d'impressionner le gars... qui fait pousser des patates ou du blé, du paysan, etc. Ouais. Donc, ils se prévalent d'une espèce de supériorité intellectuelle, alors que rien dans leur vie ne justifie qu'ils c'est ce contentement d'eux-mêmes, quoi.
Bah oui,
ce sont des cuistres.
Mais là, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de très impressionnant dans ce qu'il nous dit.
Donc, j'écoute tous les gens qui nous disent ici, c'est... De grâce, quand Attali, Minc, Meillant, etc. sont devant un micro, vous coupez la télévision. Parce que ou vous allez vous énerver, ou vous allez croire ce qu'il dit, et à ce moment-là, vous ferez des conneries. Donc, il y a des gens, vous savez, qui vous portent la poisse. Moi, j'ai été gérant de fonds pendant un grand moment, j'avais des clients, ça a duré 15 ans, mais j'avais des clients... Quand je touchais à leur compte, je perdais toujours. Il y a des gars qui ont le mauvais œil, comme on dit dans les pays arabes. Hein. Et ben eux, ils ont le mauvais œil et la mauvaise parole. Ne les laissez pas s'approcher intellectuellement de vous, ils vont vous abîmer. Ces gens vont vous abîmer.
Oh, je vais bien le croire.
Donc, restez loin, ne les écoutez pas. Et si vous pouvez... essayer de ne pas lire leurs livres, mais surtout pas, parce que moi j'avais un ami libanais qui était l'ancien, il s'appelait Khalil Al-Khoury, qui était au poil, qui était bon, extraordinairement intelligent. Un jour, il y avait. Parce que la rumeur, c'est que c'est pas Attali qui écrit ses livres.
Hein. Oui.
On l'a beaucoup dit. Bon, enfin, d'ailleurs, il a été condamné à plusieurs reprises pour plagiat. Bon. Et donc, il était à déjeuner, et il demande, Attali demande à Khalil. qu'est-ce que vous pensez de mon dernier livre ?» Et Khalil lui répond, « Vous savez, moi, je ne l'ai pas encore lu, c'est sans doute comme vous. » C'était poilant.
Ouais.
Donc, vous non plus, sans doute.
S'il n'a pas écrit ses livres, c'est déjà une chose, une mauvaise chose en moins qu'il a fait.
Il essaye, par exemple, de faire croire qu'il est, il a un esprit puissant, l'un d'eux, sur Roxatali. Moi, je crois que Chatali qui avait écrit soi-disant sur Spinoza. Bon, on s'est rendu compte qu'il avait tout pompé sur un autre qui avait écrit sur Spinoza avant. Donc, ce sont des gars qui jouent pour la galerie. Moi, j'ai toujours pensé que la connaissance, la recherche, l'étude, c'était intéressant pour soi, parce qu'on devenait meilleur.
Oui.
Mais pas pour être plus présent, plus vu, plus connu, plus admiré. Mmh. Parce qu'à quoi sert d'être admiré si on a triché ?
Ouais, je suis d'accord.
C'est comme de tricher un concours, quoi, c'est idiot. On vous fait passer un concours pour essayer de bâtir un pont. Si vous trichez et que le pont s'effondre, ben. Pff.
Oui, à la limite.
Encore une fois, c'est le mensonge pour le mensonge. Pour moi, le mensonge, c'est ce qu'il y a de pire.
Surtout, c'est d'autant plus grave si, en plus de ça, on écoute ce genre de mec lorsque, justement, on fait de la politique à un haut niveau. Et qu'on se dit, ce gars a probablement raison sur plein de trucs, je vais l'écouter, je vais faire ce qu'il
trône. Non, mais les gens se disent, il est puissant, donc je vais le prendre, parce qu'ensuite, il pourrait me faire du tort si jamais j'ai besoin. Donc, on voit très bien ce qu'ils vont faire. Ils disent en disant, si vous ne me prenez pas, vous savez, je peux vous faire du tort.
Ouais.
Donc, ce n'est pas leur compétence qu'ils vendent, c'est leur pouvoir de nuire.
Ouais. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il a vraiment un pouvoir de nuire encore, Jacques Attali ? Parce que beaucoup de gens ont dit, d'ailleurs, c'était pas forcément faux hein, à l'origine, mais beaucoup de gens ont dit, voilà, Macron, c'est une fabrication d'Attali, etc. Mais aujourd'hui, il semble plus tellement proche du pouvoir.
Il est plus proche, et puis ensuite, Attali, c'est peut-être une fabrication de... Dans Macron, c'est peut-être une fabrication d'Attali, mais il a été... C'est les 5 ou 6 richissimes qui l'ont imposé à ce moment-là en faisant sauter Fillon. Donc là, c'est une autre affaire, si vous voulez. C'est que Attali a peut-être été le... Je dirais qu'il s'est agité en disant c'est moi qui l'ai fait, mais en fait, c'est pas lui du tout qui l'a fait. C'est ouais. deux personnes qui n'ont pas l'habitude de dire que c'est eux qui ont fait les présidents. Quoi.
Je pense aussi que c'est ça.
Il est là, il s'agite en disant c'est moi qui suis responsable.
Ouais.
Pipo, mon grand.
Oui, ouais, c'est sûr.
Personne ne te ferait confiance. Si vous voulez qu'un secret soit trahi, filez-le à Attali. Quoi.
Et puis, je pense que Attali n'est pas assez. Puissant intellectuellement pour créer qui que ce soit.
Mmh.
En fait, je pense qu'il suffit de dépasser le niveau bac pour
un type très brillant, je crois qu'il a fait. Il est corpsar aux mines, il a fait X-mine.
Oui, mais est-ce que.
Ça
ne
veut pas dire qu'il est intelligent.
Non, mais moi je n'ai jamais vu un propos vraiment intelligent venant de Jacques Attali.
Non,
en fait.
Jamais.
Jamais quoi que ce soit. En fait, à chaque fois, j'ai quand même fait l'effort de lire deux de ses articles. Je suis désolé, même en tant que personne, je sais que je vais être en désaccord avec Jacques Attali, mais je peux respecter un désaccord avec quelqu'un si je sens de l'intelligence dans ses propos. Par exemple, un type qu'on aime bien comme Philippe Fabry, parfois j'ai des désaccords avec Philippe Fabry, mais je lis quand même, sa pensée m'intéresse parce que je sais que c'est un gars.
Sapir avec qui on voilà. a reçu ici, absolument. Et on n'est pas toujours d'accord, mais on parle parce qu'on oui. apprend. Quand vous parlez avec lui, vous n'êtes pas appauvri. Quoi.
Oui, exactement. Et parce que voilà, ce sont des gens aussi qui acceptent le désaccord, avec qui on peut être tout à fait civilement en désaccord. Mais là, par exemple, pour switcher sur son article en revanche de prospective sur l'année 2024, il y a une pensée vraiment très pauvre derrière. C'est-à-dire qu'il dit « Aux États-Unis, quel que soit le vainqueur, le résultat ouvrira une période de grand chaos. Un chaos durable, si Donald Trump est élu et applique son programme fou, je ne sais pas quel est son programme fou, qui vise à installer une véritable dictature, complètement absurde. Un chaos provisoire, en revanche, si après sa défaite, ses partisans déclenchent une guerre civile mieux préparée qu'en 2020. Donc, c'est-à-dire, ce sera le chaos aux États-Unis à cause de Donald Trump s'il gagne et à cause de Donald Trump s'il perd. Voilà, globalement. Et Donald Trump veut installer une véritable dictature, c'est tout à fait connu. Alors au passage, je ne sais pas si Jacques Attali est au courant, mais Donald Trump est déjà arrivé au pouvoir en 2016. Les États-Unis ne sont pas devenus une dictature pour autant.
C'est le seul président qui n'ait pas déclenché une guerre. Alors que tout le monde nous expliquait qu'il allait déclencher la guerre, qu'il allait taper sur la... Tout le monde, c'est le seul président depuis Eisenhower qui n'a pas commencé une guerre. Tous les autres ont commencé une guerre. Donc comment explique, et il a parfaitement respecté la Constitution, il a parfaitement respecté au moment où il était attaqué de façon injuste pour ses liens avec la Russie, eh bien, il a laissé jouer l'ordre judiciaire.
Tout à fait.
Arrêté, donc, ça me rappelle un peu les insultes que des gens comme Jacques Attali, d'ailleurs, à l'époque, quand ils étaient jeunes, portaient contre De Gaulle en le traitant de fasciste, de tyran, etc.
Tout à fait.
Et si vous voulez, Mitterrand, le premier, donc ils étaient en train de dire que De Gaulle était un démagogue, un fasciste, un tyran. Et le seul qui a violé la Constitution dans tous les sens, c'est Macron, c'est Hollande, c'est... dès qu'ils ont un homme de droite qui a l'air d'avoir une colonne vertébrale, ils poussent des cris au fascisme et c'est la réduction à d'Hitlerium. Mais ce qu'ils oublient, c'est aussi bien les fascistes que Mussolini, qui était le secrétaire général du Parti Socialiste avant de lancer le fascisme, et puis le Parti National Socialiste, ils étaient socialistes tous les deux. Les hommes de droite respectent les institutions, les hommes de gauche. Alors maintenant, on nous a classé le fascisme et le socialisme à droite, ou le national-socialisme à droite. Pourquoi ? Ils ont été tellement soutenus. Et puis alors le communisme, ça, à gauche, ah bon ? Donc c'est quand même curieux, si vous voulez, cette façon que quand une expérience historique a mal tourné, vous vous souvenez qu'on avait parlé du Cambodge la dernière fois ?
Oui, tout à fait.
Où le crétin de la couture disait que c'était un fascisme qui s'était installé.
Ouais.
Alors que c'est toujours la même chose dans tous les pays communistes. Donc,
ouais.
Donc le communisme ne peut pas être mauvais, mais s'il tourne mal, ça devient du fascisme. Bon.
Voilà. Bon. Donc, de toute façon, oui, si ça tourne mal, c'est toujours de la faute des autres, forcément.
C'est toujours la droite qui est responsable. Mmh.
Mais je veux dire, effectivement, c'est pas pour défendre le fascisme, évidemment. Mais je veux dire, si Jean Lacouture défend le programme des Khmers Rouges et que 2 ans après, c'est la pagaille, en fait.
Il y a 3 millions de morts.
Il peut pas dire que. Je veux dire, il y a pas eu une perversion fasciste du truc. Ils ont fait que appliquer ce qu'ils voulaient faire au départ.
Ce que disait Revel à l'époque, c'est que les communistes amenaient toujours au massacre de millions d'innocents.
Ouais.
C'était la suite logique. Tandis que eux, ils ont toujours refusé d'admettre ça.
Ouais.
Donc, encore une fois, le communisme a sans doute tué beaucoup plus de gens que le national-socialisme. Et on n'a toujours pas fait le procès de Nuremberg du communisme. Parce qu'il y a tous ces gars-là qui devraient, qu'on devrait frapper d'indignité nationale et envoyer garder des poules, je sais pas, quelque part, dans un pays inhospitalier.
Mmh. Et selon moi, on devrait aussi interdire les partis politiques qui se revendiquent du communisme.
Mmh. Moi, je sais pas pour interdire s'ils veulent, mais à ce moment-là, il faut que les gens soient informés de ce qu'a été le communisme.
Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. En tout cas, enfin, je veux dire, il faut avoir une sorte de
Et pour ça que l'élection de Milei en Argentine a été une bonne nouvelle. Parce qu'il a... Il a vraiment... parce que l'Argentine, c'était le pays le plus con, quoi.
Ouais.
Dans ce genre d'idée.
Précisément, et il l'a fait aussi parce qu'il a réussi à éclater le logos.
Oui, c'est ça, il a repris le logos.
Des étatistes qui étaient là depuis des
Donc, grosso modo, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que vous avez un certain nombre de maîtres à penser qui nous ont été imposés depuis 30 ou 40 ans, je ne sais pas par qui, que ces maîtres à penser vous ont emmené en bateau depuis toujours... Et que la meilleure des choses qui peut nous arriver, c'est que vous cessiez de les écouter et que vous tourniez le poste de télévision dès qu'ils apparaissent quelque part. Parce qu'ils n'ont rien à dire. Ils ont menti depuis 40 ans, donc ils ne savent même plus ce que c'est que la vérité. Moi, c'est ce que j'essaye de dire aux gens, c'est « Mais qu'est-ce que vous avez encore à acheter cette presse, Le Monde, Libération ? Qu'est-ce qu'ils vous ont amené ? Est-ce qu'ils vous ont jamais... Est-ce que vous avez eu un moment où vous avez dit « Eureka, j'ai enfin compris ?» sont des lâches et des traîtres et des hypocrites. Donc, il faut s'en débarrasser.
Et alors après, comment dire, je n'interdis pas à nos auditeurs de faire un petit saut sur le blog de Jacques Attali, parce que, en fait, comme j'ai dit, c'est pas du tout impressionnant. C'est-à-dire que c'est vraiment...
Mais surtout, il y a quoi, 2000 personnes ?
Alors oui, je sais pas combien
de personnes. Il y a 2000 personnes qui y vont, il y a personne ?
Mais, par exemple, pour poursuivre sur son article de 2024, enfin, sur l'année 2024, il dit, parmi les autres certitudes, la poursuite du dérèglement croissant du climat... qui sera de plus en plus visible et provoquera des catastrophes de plus en plus nombreuses sur tous les continents, et aussi la famine, qui continuera sans doute à toucher plus de 500 millions d'habitants sur la planète. Mais en fait, on dirait vraiment une copie d'élèves de seconde, quoi.
On dirait Greta Thunberg.
Non, mais c'est vraiment, oui, c'est niveau seconde. J'écris mon truc d'histoire géo pour dire qu'il y a le réchauffement climatique et la famine et que c'est horrible. Mais
aucun de ce point n'est vérifié.
Et
pour un esprit soi-disant scientifique.
La famine, qu'est-ce que ça veut dire? La famine qui continuera sans doute à toucher plus de 500 millions d'habitants sur la planète. Aujourd'hui, je crois que c'est beaucoup moins. Il y a quelques années, c'était aux alentours de 800 millions et tout. C'est ce que j'avais appris à l'école. Ça n'a pas arrêté de baisser, justement, grâce au capitalisme et grâce au développement, aux inventions de part et d'autre, grâce aussi aux aides alimentaires qui viennent.
Ils ont créé une série de mythes, comme les trois que vous venez de mentionner,
ouais.
Et ils font sans arrêt référence à ces mythes comme ce qui leur donne l'espèce de légitimité qu'ils prétendent avoir.
Ouais.
Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que tout le monde est en train de se rendre compte que ces trois mythes qu'ils ont mentionnés, là, les trois, sont tous les trois faux.
Ouais.
Et donc, si vous dites, vous êtes là le chef d'une secte et vous dites le Christ va revenir dans 3 mois... Et puis que 3 mois après, vous dites non, c'est encore dans 3 mois, et puis encore 3 mois après, au bout d'un certain temps, les gens vont dire bon, ben, le Christ, il va peut-être revenir à jour, mais enfin, c'est.
Ouais.
Donc, encore une fois, ce sont des analystes de catastrophes.
Ouais.
Ils font appel à la peur. Et donc, encore une fois, revenir à Jean-Paul II, n'ayez pas peur, n'écoutez pas ces corneaux.
C'est marrant que vous citiez ça, j'ai vu l'autre jour, il semblerait que la phrase. N'ayez pas peur.
C'est la phrase qui est le plus souvent dans la Bible.
Et prononcée 365 fois dans la Bible.
Dans la Bible, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et donc, méfiez-vous des gens qui essayent de susciter chez vous la peur. Dès que vous voyez un type qui essaye de faire appel à la peur, ou à la haine, ou à la jalousie, vous dites, oups, celui-là, je ne voterai jamais pour lui. Ni je lirai, ni je ferai quoi que ce soit. Il cherche à atteindre mon intégrité.
Effectivement. Et il y a 365 raisons, visiblement, dans la Bible, de ne pas avoir peur, une pour chaque jour.
Oui.
C'est la raison que l'on donne aujourd'hui, mardi 12 mars, oui. En l'occurrence.
C'est n'ayez pas peur.
Et n'ayez surtout pas peur de Jacques Attali, parce que c'est vraiment pas un esprit puissant, quoi. On nous a fait croire que oui,
il passe pas encore de Minc, temps en temps,
pas plus que Minc.
Ce sont des bons élèves de l'école française.
Ouais.
Mais qui sont allés d'échec en échec.
Effectivement.
C'est ce qu'appelle Nassim Taleb. Vous savez que j'aime beaucoup Nassim Taleb, qui est un esprit puissant. Il appelle ça les E-Y-I, c'est-à-dire Educated Yet Idiots. Ce sont les archétypes des éduqués pourtant idiots.
Oui, effectivement, il y a beaucoup de ça là-dedans.
C'est éduqué de diète idiote.
Très, 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 très éduqué, mais
complètement idiot.
Incapable de penser correctement. Quoi.
Absolument.
Ça m'a laissé pantois, cette histoire de dire si Trump est élu, ce sera la dictature, et s'il ne l'est pas, ce sera la guerre civile. Je veux dire, mais quelle pauvreté. Mais quelle pauvreté.
C'est amusant parce que depuis que j'existe, je suis un peu ces trucs-là, la gauche en France m'a toujours annoncé le fascisme aux États-Unis pour la prochaine élection, que la droite était toujours fasciste.
Ouais.
Et c'est le seul peuple dans l'histoire qui n'ait jamais été fasciste. Mais ça fait 50 ans que la gauche française nous annonce que la gauche, que la droite américaine est fasciste et qu'elle va prendre le pouvoir et que donc on va avoir enfin leur rêve, le capitalisme se transformant en fascisme.
Oui, tout à fait. Oui, donc, c'est leur grand rêve de voir.
C'est depuis toujours. Ouais. Ça fait 50 ans que j'entends ce crétin d'Attali ou ce crétin de Minc m'annoncer que les États-Unis vont devenir fascistes. Et c'est le seul endroit. Ils ont vu le fascisme arriver. Ils l'ont pas vu arriver au Cambodge. Ils l'ont pas arrivé nulle part. Mais alors aux États-Unis, c'est certain qu'il va arriver. Mais, crétin.
Et il y a un camp politique qui a quand même tenté d'interdire un candidat de faire l'élection. Mmh. C'est pas la droite qui a interdit à Biden ou à qui que ce soit d'autre de se présenter. C'est la gauche qui a tenté d'interdire à Trump de se présenter.
C'est ce qu'avait dit Eisenhower. Il avait dit le fascisme s'attardera aux États-Unis par l'intermédiaire du Parti démocrate. S'il doit arriver, ce sera par l'intermédiaire de la gauche.
Ouais.
Et on y est en plein, dans les universités, partout, on y est en plein.
Oui, pareil, même la tentative autoritaire pour exercer davantage de pouvoir sur les États, pour les contraindre davantage. C'est pas du tout d'inspiration libérale, et ça c'est le
démocrate. C'est parti d'inspiration constitutionnaliste américaine.
Ouais, voilà. Et ça c'est le parti démocrate qu'il veut, c'est pas le parti républicain. Donc voilà, on a couvert des gens pas très sympathiques, pas très intéressants,
et qui ont une réputation et une et un pouvoir sur certains de nos médias qui me laisse pantois, parce que des gens qui se sont trompés autant que ça, qui ont été aussi méchants, aussi veulent, aussi traîtres à notre pays, normalement, il y a longtemps qu'ils auraient dû faire autre chose et qu'on ne devrait plus jamais en parler. Mais je suis stupéfait parce que moi, j'ai commencé ma carrière avec Attali qui commence à faire du mal. Et je termine ma carrière avec Attali qui continue à faire du mal. Donc je me dis, il serait peut-être temps qu'il prenne sa retraite.
J'ai vu que apparemment dans les 18-24 ans, il n'y a que 4% des gens qui voudront voter Macron, Renaissance aux européennes.
Donc je n'ai qu'un conseil à donner à tous les gens qui ont mon âge ou moins, un petit peu moins, allez les boomers, n'allez pas voter aux européennes. Faites-nous plaisir. Laissez les gens qui travaillent aller voter. Mais surtout, vous, retirez-vous. Vous avez fait tellement de conneries pendant les 40 dernières années. La génération la plus bête de l'histoire de France, c'est vous. Donc, n'allez pas voter. Rendez service au peuple. Restez chez vous.
Oui,
allez pêcher. Et laissez les autres, ceux qui travaillent, ceux qui ont un avenir devant eux et non pas derrière eux. Donc, n'allez pas voter. Voilà.
Assez d'accord. A priori, les élections, ce sera un dimanche 2 juin, donc j'imagine qu'il fera beau.
Allez à la campagne, faites un pique-nique.
Voilà. Allez sur une barque, prenez une canne à pêche.
Mais surtout, n'allez pas voter.
Voilà, exactement.
Vous avez fait assez de mal comme ça.
Exactement. Merci beaucoup pour votre attention, comme chaque semaine. Comme d'habitude, hein, je me répète, mais enfin, je suis obligé. Faut bien vous abonner à la chaîne, déjà, c'est important. On a dépassé les 300 000 récemment. On continue de grimper, hein, on a dépassé les 310 000 et tout. Faut continuer.
Je sais pas pourquoi c'est important, mais apparemment, c'est
important. Oui, mais c'est très important quand même. Voilà. j'ai lu quelque part une fois.
Je sais plus
et ces émissions, elles sont disponibles en format podcast sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast également. Nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux. Et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine, peut-être pour un délit d'opinion, peut-être pour une interview. En tout cas, la semaine prochaine sur l'Institut des Libertés. Merci encore.
Merci.